Alors nous, nous avons fait une recherche à peu près sur, je ne sais pas, c'était 10 ans après la création d'Edréal. Et ce qui a été aussi, enfin, intéressant, je veux dire aussi comme modèle, de, on peut dire de alors que vous pouvez considérer toute la période de Sarkozy, caporaliste et tout ça, c'était géré par Guéant, on s'attendait à ce que un seul modèle, etc. Et en fait, ils ont été habiles, c'est-à-dire ils ont créé des chefs de projet qu'ils ont nommés en région. Et ils leur ont mis les clés dans les mains, avec évidemment un certain nombre de consignes, bien évidemment, de réduire le personnel, de réduire tout ça. Mais en même temps, chacun, en fonction de ce qui lui apparaissait, ou de ce qu'il, souvent il découvrait les territoires, de ce qu'il percevait, de ce qu'on leur avait expliqué comme étant les enjeux des territoires, et par rapport certainement aussi, question je pense de personnalité, enfin de voilà, les profils des Dréal ne se ressemblent absolument pas. Je me souviens très bien, on a vu, je crois, sur, je sais pas, que c'est pas tout et n'importe quoi, mais il y a presque 6 grands modèles quand même. Donc il y a eu 6 façons de donner de la place à l'équipement, à l'agriculture, à l'environnement, faire des trucs sur les risques transversaux, en mêlant les risques naturels, c'est très différent des risques industriels. Enfin, ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, et assez atypique au moins, dans l'administration française, et dans le sens de ce que vous disiez, enfin, c'est ce que vous disiez qui m'y fait penser, c'est que ceux qui défendaient le modèle le plus, disons, ouvert, le moins intégré, par exemple, à la région Rhône-Alpes, je crois qu'il a, lui, il était à la limite de tout, il y a, je ne sais pas quoi, comme dans 5 ou 6 grands départements, hein. C'était son argument. C'est dit, on a le programme Grenelle, 2 lois, etc. Enfin, c'est un peu le catalogue de la redoute. Qu'est-ce que ça donne sur notre territoire? Il faut définir. Et puis, sur les enjeux prioritaires, il est évident que tout le monde n'est pas d'accord sur tout, et il faut que ça puisse discuter, et pour lui, que ça discute entre ces départements. J'ai trouvé que c'était une... Et la structure a... Même, je crois, les autres aussi. En grande partie, j'ai revu après Lyon, et puis, enfin, je dirais Lyon, Rhône-Alpes, et puis Midi-Pyrénées aussi, qui était assez complexe. Ça a tenu. Donc voilà, travail d'ajustement, de redéfinition progressive.
Sur ce sujet-là, Frédéric Lenard, je suis dans des agences de la situation des États. Alors ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là, et j'ai vu leur remarquer sur le compte de France. Et moi, je trouve que, alors, ce qu'a dit Patrick Galès ce matin sur l'État, je trouve qu'il a été assez, donc il est sur les transformations d'État, où je trouve qu'il est très compulsoire, en tout cas sur le cas français.
J'attendais pour l'après-midi, oui, j'anticipais.
Je parlais presque, mais moi j'oserais, je ne sais pas si le démembrement, mais en tout cas l'affaiblissement très prononcé déjà, enfin, territorial en tout cas, il a un peu évoqué, autour de la figure du préfet, moi j'ai suivi depuis longtemps, et de ce qui s'est réorganisé en dessous, ça renvoie à ce qui était là, je sais sur le sujet des grilles, des VAM, des DDE, je travaille des DDE. Je parle encore de la DDE, quand je parle de la création territoriale, on va dire que c'est le détail de la réorganisation, ce qui s'est passé au niveau du changement permanent d'État. Et moi, par rapport à ce que vous dites, j'ai quand même une vision, alors, qui est quand même d'avoir un affaiblissement très très fort. Il y a eu le passage, alors il y a eu l'OL, le RGPP, toutes ces histoires-là, mais il y a aussi le discours de Sarkozy de dire que le préfet est le représentant de ses politiques à lui, c'est le représentant de l'État, c'est le représentant du gouvernement, qui a beaucoup pesé, pour moi, ça a quand même été repris, je crois, dans la dernière période. Et plus seulement l'État régalien, mais c'était l'État politique qui promeut les réformes du gouvernement du moment. Et derrière, moi je lis beaucoup sur les DDE, mais je crois que par exemple l'affaire du Grisol, la crise des drillons, c'est quand on a marié effectivement les agricoles, les ponts et tout ce qui est ingénieur de l'environnement, il y a quand même une déprofessionnalisation des responsables. Et qui a quand même fragilisé par rapport au préfet, au rapport de force politique, c'est grande mission régalienne qui était importante, plus d'environnement. L'affaire du Grisol, si on la lit un peu en travers des choses, c'est grosso modo le responsable qui n'a pas la performance, l'expertise dans le domaine, il paraît qu'il est démuni, et si le préfet et les élus ils ont étudié pendant 3 ans que finalement il fallait lâcher les affaires du Grisol, ben, il les lâche. Donc, moi, mon interprétation des choses, et je l'ai vécu dans le logement avec les deux, c'est quand même qu'il y a un désemparement des acteurs de l'État, une rotation permanente, la randomisation. Grosso modo, la première activité, c'est le reporting. Et que, bon, c'est très moi, je suis dans une agence, au moins j'ai un programme, j'ai un conducteur, j'ai plein de critiques, mais au moins j'ai un rapport au centre, à la périphérie, qui fait que bah, j'ai le maire en face de moi et j'ai aussi. L'ensemble du système d'État, et en particulier sur l'environnement, à mon avis, a été beaucoup démuni là-dedans, malgré la progression institutionnelle de l'outil, et que pendant ce temps, sur que ce soit les grands travaux, je ne parle pas du long du moins, de parler, mais on parle express, à la question agricole, par exemple, la question des pesticides et donc des perturbateurs endocriniens, l'environnement a été incapable de conjurer ou de peser. Quoi. Et je pense que c'est lié à l'affaiblissement d'État. Je ne sais pas si ça, vous avez rentré ça dans vos analyses des 15 dernières années.
Alors, je ne sais pas ce que M. Galès vous avez dit à propos de ça, mais je pense que. Je pense que nous. Enfin, peut-être quand il a fait quelque chose de très mâché, etc. Mais pour nous, je pense que parler, vous voyez, d'un affaiblissement de l'État, c'est un niveau d'abstraction tel que ça n'aide. Je pense que selon nous, ça n'aide pas vraiment. C'est-à-dire, il faut dire, c'est l'État sur tel type de compétences, par rapport à tel type d'enjeux, etc. Là oui, là non, vous voyez. Enfin bon, parce que sinon on entre. Surtout moi. Moi je me suis. J'ai souvent travaillé sur des. En gros des sujets qui socialement poussent à la sinistrose. Vous voyez, 40 ans, qu'est-ce qu'il y a encore à voir, vous avez vu les résultats, enfin vous voyez. Et donc, vous voyez, c'est plutôt une. Peu importe ce que je pense à titre individuel, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais quand je travaille intellectuellement, moi, j'essaie toujours de me dire mais qu'est-ce qui se passe et dans quel sens. Mais dans le sens certainement de ce que vous dites, j'en ai pas parlé, mais dans notre livre, nous avons fait là, sur la mise en place des DREAL, etc., il y a eu un. Enfin, nous avons pu observer dans notre livre, si vous le verrez, il y a des passages délicieux sur ce qu'on. Il y a une tentative de préfectoralisation de toute l'administration, mais à un niveau sérieux, hein, y compris des tentatives des préfets pour, par exemple, pour devenir DREAL, et donc des préfets qui n'avaient. Ils ont une immense compétence générale, on est d'accord. Hein, parce que si on est enregistré toujours.
T'inquiète pas, parce que depuis ce matin, je peux pas y aller.
Enfin, vous voyez, c'est certainement de très très grands polyvalents. Voilà, mais enfin.
Je peux couper si vous voulez en dire plus.
Ça a été intéressant parce que du coup, il y a eu des résistances internes très très fortes, des grands corps. Hein. Voilà. On dit, mais attendez, là, il y a des problèmes d'enjeux industriels très importants. Là, c'était des problèmes d'équipement, d'agriculture, etc. Ce monsieur, aussi brillantissime soit-il, je veux dire, il va certainement souffrir pendant 6 ou 18 mois à découvrir. Quoi. Voilà. Et donc, au bout du compte, ils ont perdu. Ils ont perdu alors qu'ils ont gagné dans d'autres secteurs. Mais là, c'est comme si vous voulez la mise en avant d'un certain niveau de technicité et aussi d'expérience antérieure a permis aux trois grands corps de résister à la tentative de mainmise, tentative de hold-up pratiquée par les préfets qui, dans la logique sarkozienne de ce gouvernement-là, enfin, il y avait l'idée que c'était eux qui devaient être vraiment les grands administrateurs de l'État et qui n'étaient pas pris dans des particularismes, dans du clanisme professionnel, etc. Eux, ils avaient vraiment une hauteur de vue. Mais peut-être un peu trop, quoi. Voilà, ils étaient un peu hors sol.
Il faudra peut-être parler dans ce sens-là, pour ajouter une anecdote, à des dates. Il faut vous rappeler quand même que si on réfléchit simplement, comme a fait Pierre sur le ministère, mais un peu en relation avec les autres ministères et les autres grands corps, c'est quand même la défaite du corps des ponts. sous toute cette histoire-là. Et il y a une séance légendaire de Liedat. On avait une des préfètes qui était la fer de lance de ce que vient de raconter Pierre. Et, qui, et à côté d'elle, il y avait l'ingénieur général du corps des ponts. Le chef du corps des ponts. Et on a eu un débat ce jour-là. Vous voyez, c'est des moments qu'on n'a malheureusement pas enregistrés. Mais c'était spectaculaire. Hein, parce qu'elle était femme et pas ingénieur. Et c'était quand même... Et lui, c'était un vieux monsieur blanc et ingénieur des ponts. Donc, vraiment pas... On avait vraiment les... Vous voyez, les mépris de corps réciproques, c'est des moments uniques dans l'IEDAT. On se dit, ça, c'est des trucs que jamais on n'aurait pu voir. Donc, il y a aussi, dans la réussite de ce que raconte Pierre, la délégitimation d'une partie du corps des ponts et de sa vision de ce qu'était le territoire et de comment on devait intervenir. Et comme vous savez bien, les DDE, le point le plus important, c'est que les ingénieurs des ponts arrêtent de diriger les DDE. Mmh. Et quand ils quittent les DDE, c'est la fin des DDE. Hein, donc, les logiques de corps, en France, restent toujours extrêmement importantes pour expliquer ce qui se passe. Et du coup, moi, j'irais quand même dans votre sens... Mon camarade est toujours plus précis, rigoureux, etc. Moi, je raconte des histoires, comme vous avez compris. Mais on peut vraiment mettre en évidence des logiques de retrait en partie de l'appareil d'État sur le territoire. Ça, ça me paraît absolument clair, précis, net, dans votre sens. Alors, en même temps, les collectivités sont montées en puissance. Donc après, il faut voir, ça veut dire que ce n'est pas gouverné. Mais là, il y a un bout de l'appareil d'État classique français qui s'est retiré des territoires pour le meilleur et pour le pire. Ça, je pense que...
Est-ce que je rajouterais juste, pardon, excusez-moi, je dis juste une phrase. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, vous viendrez me taper sur le dessus à la pause. C'est que dans ce sens-là, ce qui aussi, pour moi, atteste alors, de ce retrait de l'État, c'est surtout les pertes de compétences techniques et les marchés considérables de bureaux d'études, de conseils, etc. Donc, il y a des moments, enfin, je veux dire, même des gens que nous connaissons qui sont dans les. Qui sont dans les réels, qui sont contournés parce que donc ils apprennent que sur le dossier enfin, qu'on leur remet, ah, mais il y a déjà 3 ou 4 études qui ont été faites et que enfin, des vendeurs de solutions, miracle bien évidemment, ont proliféré. Hein. Bon, marchandisation.
Je voulais revenir sur deux choses en parlant de mon amitié de Colomba, c'est l'un des MDES, je suis passée en préfectorale et je suis actuellement ministre de la cohésion des territoires. Première chose sur la préfectoralisation, qui est un sujet permanent et très intéressant, mais dont il me semble qu'on oublie quelque chose, c'est qu'un préfet n'est pas préfet, bon, et on ne devient même pas, mais on est, et que l'enjeu du préfet, c'est comment il est formé, et d'où il vient, et quels sont ses objectifs. Et qu'on est dans un État où depuis 200 ans, on a plutôt des préfets régaliens, mais que rien n'empêche actuellement, on empêcherait d'avoir des préfets qui viennent du corps des ponts, par exemple. Et dont l'objectif est de développer un département vert. Voilà, donc l'enjeu, à mon avis, il est là. Mais qu'est-ce que le président de la République qui vient de le faire, qui ignore, qui
donne,
et comment ils sont formés. Le grand passe par l'ENA, qui est la voie royale, mais qui n'est pas nécessairement tous les préfets qui sont passés par là. Est-ce qu'on ne vous apprend pas que l'environnement est important?
Alors là, vous ne poussez pas sur ce qu'on pense de l'ENA, parce que là, on va être désagréable.
Mais ce que je veux dire, c'est que les solutions existent et qu'elles sont en fait pas très compliquées à mettre en œuvre. Première chose. Enfin, sur le papier, c'est de nommer un préfet, oui, c'est plus qu'il est connu pour ce que c'est bien sûr. Deuxième chose, votre présentation, on a évoqué quelque chose sur lequel vous voulez avoir votre avis, une administration de mission interministérielle qui change de rattachement, j'ai juste beaucoup de choses qui perdent tous ces arbitrages, etc. Ça ressemble à deux sujets sur lesquels je suis actuellement. Premièrement, la politique de la ville, et deuxièmement, l'aménagement du territoire. Et l'histoire diverge en 2000, je ne sais pas quand elle diverge, enfin, en tout cas en 2007 pour le MDES, qui devient un très grand ministère, et aujourd'hui en 2020, l'ANCT, qui devient une agence. Donc je voulais avoir votre avis sur ces politiques interministérielles qui sont difficiles à porter, absence de corps constitués. De corps de fonctionnaires constitués. Je voulais avoir votre avis sur parallèle ou divergence entre l'évolution de la prise en compte institutionnelle de l'environnement et prise en compte institutionnelle de ces sujets d'aménagement et d'égalité des territoires qui avaient aussi été évoqués plus tôt à l'ouvrage. Je ne sais pas si c'est clair.
On regarde cette histoire que vous avez fait vivre. Comment vous voyez l'avenir de l'épouvante du ministère?
Non, ça va me coûter beaucoup plus cher. Enfin, Patrick.
Tu je réponds à ces deux questions-là ou je peux le troisième en même temps?
Ah oui, je vais me souvenir.
Donc c'est sur la même lignée, hein, c'est à quoi sert le ministère aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup d'organisation et je comprends les moyens qui baissent, donc, mais on ne s'est jamais posé, enfin, en tout cas depuis notre lucarne territoriale, parce que moi je suis de la lucarne territoriale, de à quoi sert l'État aujourd'hui quand l'État sort une stratégie nationale bas carbone, une stratégie énergétique, là ça nous parle. C'est-à-dire qu'il y a un cap qui est fixé et nous on a après, à, dans une souplesse assez forte, à décliner ça, mais on a un cap. À côté de ça, on a parlé tout à l'heure des indicateurs de bien-être et d'indicateurs territorialisés pour gérer les transitions parce que chaque situation est différente. Et en face de ça, moi j'ai le ministère qui nous assaille de réunion sur le zéro artificialisation net. Donc on a d'un côté l'État stratège qui nous donne des fois des cas qui sont plutôt bons, et d'un autre côté un État réglementaire qui ne sait même pas expliquer le but ultime de sa norme, d'ailleurs, hein, et qui vient contredire finalement des organisations plus souples qu'on souhaiterait avoir territorialement pour gérer le côté systémique des transitions.
Alors, brièvement, pour ce que je dirais, c'est que, enfin, ce que je connais, ce que nous comprenons de l'organisation historique de l'État à la française, si on s'appelle ça, c'est que contrairement à d'autres pays, et en particulier aux pays anglo-saxons, en fait, le système des agences a toujours une faible légitimité. À des moments, on s'en sert parce qu'au fond, on se dit que c'est une façon de, par exemple, on peut dire pour l'INERIS, l'ADEME, etc., de centraliser des compétences, mais on leur demande rarement plus que de produire de la connaissance, de donner des avis, etc. Contrairement, par exemple, à l'IPA aux États-Unis, qui est devenu, dans le temps, un producteur, disons, c'est pré-législatif, disons. Il ne se substitue pas, mais il produit du texte, et il produit des normes. Voilà. Ce qui n'est pas le cas chez nous pour les agences. Et je pense que voilà, c'est un peu la difficulté que je vois. Alors moi, je connais pas bien, disons, tout ce qui est autour de, disons, enfin, politique de l'asile, etc. Mais enfin bon, pour avoir lu un peu, on voit bien, c'est que d'un côté, ça se défend en raison de la dimension pluridimensionnelle des enjeux qui sont là, et que même, enfin, que l'interministériel est pas capable de d'assumer en permanence, etc. Donc c'est bien d'avoir des lieux pour faire ça, d'avoir des financements. Mais en même temps, et là je fais le lien avec la remarque de monsieur là à droite, ce qui me semble aussi frappant, c'est que vous allez me dire, c'est très facile de dire ça, enfin les exemples sont tellement nombreux, c'est que les politiques publiques, mais pas simplement en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, etc., sont quand même, je ne vais pas dire qu'elles sont profondément contradictoires, mais elles sont presque structurellement contradictoires. Et que, quelles que soient les questions que l'on prenne, à un moment ou à un autre, on va se retrouver, on peut dire, avec des injonctions contradictoires, c'est-à-dire des budgets, des compétences à donner dans un sens, et puis de l'autre côté, des décisions politiques qui vont dans l'autre. Moi, par exemple, j'ai suivi, il doit y avoir, je sais pas quoi, 15-20 ans, les débuts pour ce qui est la protection du territoire, c'était venant de l'Europe, des milieux naturels, tout ce qui était autour des programmes Natura 2000. Natura 2000, c'était les guerres picrocollines à la française. Pour savoir, on était encore au début, c'était faire des cartes, hein, mais pas. Voilà. Avec l'ONF qui était en haut de la Tour Eiffel avec une mitraillette et qui tirait sur tout ce qui bougeait. Qui savait très bien mobiliser les élus locaux, les élus nationaux, etc. Ça a été donc la France s'est retrouvée à peu près dans les derniers pays à remettre un plan, un programme, et deuxièmement, se les fait retoquer pour insuffisance par rapport à la surface des territoires qui étaient concernés. Et troisièmement, donc il y a eu un deuxième plan, et sur la mise en œuvre, je ne connais pas le travaux récent, mais il faut y en avoir. Enfin, ça s'annonçait extrêmement, extrêmement compliqué. Et on peut le dire aussi sur tout ce qui est, puisqu'on en parle beaucoup, la gestion de la ressource en eau, aussi, on est sur des politiques qui sont complètement contradictoires. Je pense au cas de la Bretagne, mais il n'y a pas
de l'Europe.
Oui, non, parce que ce genre, on ne parle jamais de Bretagne. Enfin, lui et moi, demain. Voilà, donc si vous voulez, monsieur, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, puisque moi je me suis toujours, je crois qu'on s'est retrouvé sur ça beaucoup avec Patrick, parce que lui, travaillant sur les questions urbaines, moi sur les questions environnementales, donc on s'est travaillé ensemble quand on s'est rendu compte qu'on traitait des questions du même type. Sur des terrains très différents, des acteurs très différents. Ah oui, mais enfin, les problèmes se ressemblaient terriblement. Et donc, cette idée que la définition du bien commun, de l'intérêt général, etc., c'est une sorte de vision d'affichage que dans l'action concrète des décideurs, des gestionnaires, des administrateurs, des gens des collectivités locales, ce qu'ils font sans cesse, c'est essayer d'ajuster des intérêts contradictoires, et quand je dis ajuster, c'est, vous savez, au sens des menuisiers, quoi. Hein, il y a des tas de mains, ça s'ajuste en force. Voilà. Et c'est parce que c'est comme ça que ça tient un certain temps, voilà. Mais il n'y a pas de toutes ces expressions qu'on entend de dépassement des conflits, enfin, je sais pas quoi, d'accord sur définition d'un bien commun partagé, en fait, tout ça, bah, ça me laisse toujours au pantois, quoi, parce qu'en général, ça tient pas longtemps. Et quant à l'avenir, écoutez, franchement, j'ai aucune idée précise, mais ce qui m'a frappé, je l'ai dit, c'est que quand même ce grand agglomérat imposé de force, vraiment, sous la période Sarkozy, a tenu jusqu'à présent. Ça ne dit rien de... Vous voyez, il n'y a rien de déterminé. Mais c'est quand même étonnant, parce que sont passés dessus Madame Royal, Monsieur Hulot, brièvement Monsieur de Rugy, je n'ai jamais entendu de remise en question de tout ça.
Petit détail, j'avais regardé sur la question des transports, les programmes des différents candidats présidentiels, justement, et le PS était un candidat possible contre Sarkozy, prévoyait aussi un grand ministère de l'environnement, alors pas tout à fait les mêmes frontières, mais l'idée de regrouper transports, logement, aménagement du territoire et environnement était partagée à cet égard, alors avec des concrétisations organisationnelles qui n'auraient pas forcément été les mêmes. Et sur le principe même, il y avait convergence.
Oui.
Allez,
très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je voudrais tous ceux qui...